Press, une émission produite en synergie par 3 médias, la radio publique africaine, la radio Indamba et la radio-télévision Renaissance.
Le Club de la Presse offre aux professionnels des médias et aux invités un espace de débat et d'analyse des nouvelles nationales et régionales.
Cette émission est aussi un cadre d'expression à l'autocritique et à une analyse sans complaisance du travail des journalistes burundais.
Retrouvez le Club de la Presse tous les vendredis sur le www.rpa.bi ou sur le www.nzamba.org et sur la page YouTube de la Télévision Renaissance.
Le nouveau projet de loi sur les avantages qui seront accordés aux anciens chefs de l'État, c'est l'unique sujet du jour. Les députés ont approuvé jusqu'à presque l'unanimité le montant d'1 milliard de francs burundais, le salaire et l'intendance à vie de vice-président et la construction d'un palais de luxe qui vont être offerts à ces anciens présidents à condition qu'ils aient été élus. Ce qui signifie que ces avantages reviennent uniquement à Pierre Nkurunziza et à la succession de feu Melchior Ndadaye. Buyoya, Bagaza, Michombero, Ndayizeye, Niwanunganya et Nagyamira, tous passent à la trappe. Les uns pour avoir accédé au pouvoir par un coup d'État, les autres pour avoir juste assuré la transition. Quelle signification donner à ces avantages dans le contexte actuel? C'est autour de cette question que vont débattre nos deux invités. D'abord, Innocent Mohosi, journaliste et directeur de la télévision Renaissance. Bonjour.
Bonjour, Franck.
Nous sommes également avec Emmanuel Nyangouroutse, ancien sénateur. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Et bienvenue à tous les deux.
Merci. Merci.
D'abord, avec vous, Innocent Mohosi, les avantages en question ne concernent que deux chefs d'État. On sait qu'il y en a pratiquement 8, un actuel et 7 autres anciens. Est-ce que cela déshonore les autres?
Ça déshonore surtout celui qui prend ce type de décision. Je crois que ceux qui prennent ces décisions-là, c'est eux qui sont déshonorés, c'est pas les autres.
Ah
en
bon?
Définitive, non.
Donc ça a un effet boomerang.
Quand vous prenez des décisions, non, eux, ce qui les intéresse, c'est le cash qui arrive dans leur poche éventuellement. Mais sauf que, à ces niveaux de responsabilité, on est censé avoir un peu plus de hauteur, un peu plus de dignité. Mais là, c'est un étalage plat de haine, de boulimie. Et surtout des déshonneurs. Vous ne pouvez pas prétendre que vous qui êtes président aujourd'hui, vous méritez mieux que ceux qui ont été présidents avant. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas étaler autant de haine, parce qu'il y a un arrière-plan aussi de haine ethnique, en fait. Quand vous regardez les personnes qui sont incriminées pour être venues par des coups d'État, ce qui était la pratique pendant des décennies sur tout le continent, vous ne pouvez pas prétendre que ces gens... Vous prenez une loi rétroactive et qui les pénalise comme ça, avec cet arrière-fond ethnique, et en plus, et ceux qui sont ethniquement de votre ethnie, donc le président Niwanunganya et le président Ndayizeye, vous les diminuez quelque part, vous en faites des présidents à moitié pratiquement en termes de considération. Et vous instrumentalisez pour la énième fois, feu président Melchior Ndadaye, juste pour faire croire que vous êtes le président Hutu, vous êtes le régime Hutu, qui est venu rétablir les Hutus dans leur, dignité ou pleine citoyenneté, etc. C'est de l'instrumentalisation de feu président Ndadaye pour la énième fois, je le disais, mais c'est surtout énormément de déshonneur et de petitesse en termes de décision.
Mais est-ce que l'argument d'avoir été élu n'est pas objectif?
Ce n'est pas un argument objectif, parce que les élections en Afrique, elles sont venues depuis quand? Entre-temps, il y avait des présidents dans le pays. Comment est-ce qu'on n'accédait pas au pouvoir à ce temps-là? C'était par des coups d'État. Et c'était ça la règle un peu partout. Soit vous voulez réconcilier votre pays, vous voulez le faire avancer, soit vous voulez l'enfoncer dans des crises interminables. Et les décisions de ce genre-là, c'est une énième décision qui vient s'ajouter à toute une série de décisions qui sont prises depuis 15 ans, plus de 15 ans, par ce régime-là, qui ne font que détruire les fondements qui auraient permis au Burundi de pouvoir sortir de toutes ces... De ces impasses et de ces désastres dans lesquels on a été pendant tout ce temps. L'accord d'Arusha avait tracé les voies, avait permis de stabiliser le pays, de montrer quel pistes et solutions à adopter, mais encore une fois, c'est une énième décision qui vient détruire ce qui semble encore être un accord d'Arusha qui survivrait. C'est pathétique, mais c'est logique aussi. C'est tout à fait conforme à la logique du gouvernement de ce régime-là.
Vous parlez du fait de détruire l'accord d'Arusha, et pourtant, lorsque vous parlez de Ndaye Veye, quand vous parlez de Niwal Mungania, qui gardent certains de leurs avantages, ça concorde avec l'accord d'Arusha, non?
Oui, mais vous savez, il y a toujours quelque chose qui concorde avec l'accord d'Arusha, quoi que l'on fasse. Hein. Quoi que l'on fasse. Mais ce n'est pas ça. Mais l'esprit de cette loi, c'est évident ce qu'elle cherche. L'affaire Ndaye qu'ils sont en train de tripatouiller comme ils l'entendent, on voit trop bien pourquoi ils le font. Cette loi-là, on voit trop bien qui elle vise les anciens chefs d'État Tutsi. C'est tellement lamentable que c'est pénible d'en parler.
Il vient de parler du fait que cette nouvelle loi viserait, comme il vient de le dire tout de suite, les anciens présidents Tutsi, mais que quelque part ça rend d'autres présidents Hutu, Ndaye Veye, Niwal Mungania, mais également la succession de Nadia Amila, des sous-présidents pratiquement, des sous-anciens présidents. Mais est-ce que vous sentez la même chose, cette haine dont il vient de parler, qu'il serait en train de payer pour l'histoire?
Non, mais c'est clair, c'est exact. Il s'appuie sur le président Ndaye, n'est-ce pas, pour discriminer certains et réduire la considération des autres. Des autres qui ont en réalité été de grands artisans pour la signature de l'accord d'Arusha, pour la paix et la réconciliation au Burundi. Pour les présidents Tutsi, on leur enlève tous les avantages. N'est-ce pas? On efface, parce qu'il y avait une loi en vertu de laquelle ils avaient des avantages. Des avantages suffisants qu'ils partageaient aussi avec les présidents Niwal Mungania, Nadia Amila et Ndaye Veye. Mais lui, alors, après, en utilisant le président Ndaye, il dit ben, voilà, avec le président Ndaye, nous sommes des grands, des forts. On doit nous donner
davantage.
Mais ce qui était là était suffisant. Suffisant. Ce qui démontre, en fait, en plus de ses objectifs de désintégration du tissu social, en fait, lui, je crois qu'il fait la stratégie du chaos. Il détruit tout ce qui existe et il va ramasser.
Donc après moi, le déluge.
Non, il ramasse ceux qui veulent bien le suivre. Et après, il établit son propre ordre, un ordre vraiment très injuste, un ordre généré mafieux, disons-le tout de suite. Pour les présidents, les autres présidents Hutu, disons-le, et les avantages qu'ils avaient restent là. C'est seulement au niveau de la considération, voilà, au niveau de leur dignité, n'est-ce pas, que ça ne marche, parce qu'ils disent, vous n'êtes pas égal à nous. Or, il prend des critères de discrimination. Il dit par rapport aux voies d'accès à la fonction présidentielle. Mais la loi parle des anciens chefs d'État. On est chef d'État, quel que soit le moyen dont on accède.
Quand on a été à la tête de l'État, c'est...
Oui, c'est ça. Et la loi parle d'anciens chefs de l'État. On a pris des décisions. Est-ce que pour autant il va supprimer toutes les décisions,
Et donc pour vous, s'il fallait prendre cette décision, il aurait fallu la prendre pour tout le monde?
Pour tout le monde. Non. Sauf pour majorer les allocations. Les allocations qui existaient étaient suffisantes. Et je ne pense pas qu'ils se sont plaints, les anciens présidents, pour réclamer, n'est-ce pas, davantage. Mais lui, ce qu'il montre là, c'est que c'est un insatiable, comme on dit. Et lui, il démontre la pas du gain, il aime les facilités, tout ça.
Et ça, ce n'est pas le
profil d'un bon président.
Il y a le président de l'Assemblée nationale qui a dit le président Pierre Nkurunziza, il a trop souffert, il a dit en Kirundi, Yada Yekumajoro Menshi, Ayuma Farangaradi Zobinarabi Kui. Est-ce que ça serait. Comment est-ce que vous considérez ces propos?
Non, mais ce sont des propos d'un grand. Courtisan, un grand courtisan, inconscient, et inconsciencieux parce qu'il ne sait pas qu'il doit appliquer la loi. La loi lui interdit, n'est-ce pas, de voter des lois qui demandent des charges supplémentaires et injustifiées à l'État, des charges au budget de l'État. Ça, ça figure dans leur propre constitution. Mmh. Et pourtant, ça figure dans le règlement de l'intérieur.
Et pourtant, ils disent que les moyens existent bel et bien et que cela ne va pas du tout causer des soucis au budget de l'État.
Quels moyens, quand vous regardez le niveau de vie de la population burundaise, les dettes, l'état sanitaire du pays, les écoles, tout ça là, est-ce que le Burundi, c'est le Burundi, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, je crois.
Mais si les moyens existaient, pourquoi ils iraient racketter les citoyens tous les jours pour financer les élections, pour financer je ne sais pas quelle addiction si l'État avait les moyens, pourquoi ils seraient en train de racketter les gens depuis 15 ans maintenant?
Vous venez de parler d'élections et ça c'est un argument que vous n'avez pas du tout avancé et pourtant l'opinion en parle beaucoup en disant en parlant du fait que en parlant de Ndadaye c'est beaucoup plus. C'est une mesure populiste pour montrer notamment aux Hutus, écoutez, je suis en train de faire ceci, je suis en train de faire cela. Élisée, qui je vais désigner, par exemple.
Vous savez, ces élections-là, c'est même pas la peine d'en parler parce que, à moins d'un miracle, je ne vois pas comment ils pourraient laisser Rwasa gagner avec tout ce qu'ils sont en train de faire à ses militants, avec tout ce qu'ils lui font ou qu'ils lui ont fait lui-même. Donc, il y aura des élections, ce sera encore une fois une mascarade. C'est eux qui vont gagner les élections, ils vont les programmer, ils vont les gagner. Ils ont refusé qu'il y ait des observateurs, qu'ils appellent des colons, etc. Il n'y aura pas de travail de médias indépendants, il n'y a rien pour parler d'élections dignes de son nom dans ce pays. Nkurunziza va partir éventuellement.
Donc les élections vont s'assurer d'avance.
Mais le problème, c'est le système va perdurer. Avec ou sans Nkurunziza, là n'est pas la question. La question, c'est son système-là. Cette façon de gouverner, cette façon de tyranniser le pays. Si cette façon-là se maintient, continue, ben le problème reste entier. Donc c'est le prétexte des élections maintenant. Vous savez, la question majeure n'est pas de savoir comment on arrive au pouvoir. Ce n'est absolument pas cela. Qu'est-ce qu'on fait du pouvoir? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on est leader d'un pays pour contribuer à résoudre le problème de la société, les problèmes de pauvreté dans l'autre cas, les problèmes d'un système judiciaire digne de son nom, les problèmes de sécurité pour tout le monde, les problèmes de progrès matériel et social, l'éducation, la santé, etc. Est-ce qu'on s'occupe de ces questions-là ou on est occupé à piller le pays, à tuer ce qu'on pense ne pas être ses amis, à régler des comptes imaginaires ou réels, etc. Ce qui est fondamental, c'est qu'est-ce qu'on fait du pouvoir, ce n'est pas tellement comment on accède au pouvoir. Et s'il utilise l'argument des élections pour le président de Daï pour lui, ce n'est pas tant qu'il y croit, c'est juste parce qu'il sait que il se couvre avec le président de Daï pour avoir des avantages qui l'intéressent lui. Et par la même occasion, il instrumentalise le président Dadaï comme il le fait depuis un bon bout de temps, avec le pseudo-procès qui est en cours et d'autres décisions qui ont été prises. Donc, ce qui est fondamental à propos du pouvoir, ce n'est pas trop comment est-ce qu'on accède au pouvoir, c'est qu'est-ce qu'on fait du pouvoir.
Emmanuel Nyongurute vient de dire, écoutez, les avantages dont disposaient les anciens chefs d'État, c'était déjà suffisant. Est-ce que vous admettez également qu'un milliard de francs burundais, une ville à cossu, et un salaire de vice-président à vie, etc., etc., est-ce que ça serait trop?
Vous savez, qu'un ancien président soit dans une villa cossue, ça ne devrait pas être un problème en tant que tel. Comme on ne dit pas que Ngoumwa m'a dit bouché. Mais bon, mais cela étant dit.
L'ancienne loi aussi, c'est ça. On veut assurer le logement, un logement très décent, digne de leur...
Cela dit la question...
à la fin de leur vie.
La question fondamentale, encore une fois, c'est de dire, mais pourquoi vous introduisez cette infamie qui vous déshonore en vous présentant comme pratiquement un glouton, un boulimique du matériel? Il y a une loi qui est là, qui donne déjà des avantages à ce chef d'État. Vous en bénéficiez, les autres ont le droit d'en bénéficier. Vous introduisez des choses sales, même dans des choses les plus inattendues, en fait. Donc, c'est pas trop. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? par rapport à la condition dans laquelle se trouve le Burundais, il y a un problème certainement. Mais moi, ce qui me pose problème, ce n'est pas que les anciens dignitaires aient des facilités qui leur permettent de garder une certaine dignité matérielle. Moi, ça ne me pose pas de problème. Mais maintenant, à quel niveau, ça peut être une question à débat.
Emmanuel, ça fait quand même un bout de temps qu'on parle du fait qu'on allait voter une nouvelle loi sur les avantages accordés aux ex-chefs d'État, et pourtant c'est aujourd'hui qu'on est en train d'en faire des débats. Est-ce qu'on risque pas de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas eu trop de silence pour que cette loi puisse voir le jour finalement?
On ne pense pas qu'il allait exagérer jusque-là. On pensait qu'on allait actualiser, compte tenu peut-être d'une certaine dépréciation du franc burundais, peut-être.
Sauf que tout le monde pourrait réclamer la même chose.
Voilà, exactement. Mais on ne pensait pas qu'il allait se donner un milliard de francs burundais comme ça, alors que les avantages qui étaient prévus au titre de la loi existante étaient suffisamment, largement suffisants. Et de toute façon, lui, il a trop de biens. On sait très bien qu'il a trop de biens. Il est cité parmi les présidents les plus riches d'Afrique.
Pas du monde.
Je sais pas. Du monde, je ne sais pas.
C'est un débat.
Donc, on ne pensait pas qu'il allait arriver jusqu'à ce point-là. Parce que ça, c'est pourquoi on a dit. C'était normal. Mais maintenant, avec un milliard, avec 6 véhicules, avec 16 personnes, 16 éléments attachés à son personnel, et des avantages inouïs que même des pays développés ne peuvent pas réserver à un ancien président.
Juste, en quelques mots,
alors comment on prenait le dernier pays le moins développé du monde et vous flanquez des milliards à un ancien président et qui n'a rien fait pour le pays, sauf le ruiner politiquement,
humainement
économiquement, tout. C'est le président qui enregistre le bilan le plus mauvais de tous.
En quelques mots, comment comprendre, puisque vous avez parlé de Ouassadato, avec tout ce qui se passe, tout ce qui arrive à ses militants, au bien de ses militants, etc., qu'ils aient pratiquement voté pour cette loi? Parce qu'il n'y a pratiquement que deux voix, que deux personnes qui n'ont pas voté pour.
Je ne sais pas si c'est deux ou si c'est
non,
12.
Non, c'est 12.
C'est 12 plutôt.
Mais
deux se sont abstenus, effectivement. C'est 12 quand même. Donc ça c'est au moins c'est clair. C'est les 12, justement. C'est ceux de Ouassa, j'imagine.
Mais ceux de Ouassa, ils sont à 30. Ils auraient dû.
Non, bon, ce qui veut dire quand même qu'il y a une bonne majorité qui a voté pour.
Vous savez, ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, si vous essayez de le comprendre rationnellement, vous n'y arriverez jamais. c'est tellement une accumulation d'absurdités croisées dans tous les sens qu'on ne peut pas arriver à comprendre ce qui se passe. Donc, est-ce que les gens raisonnent rationnellement? Est-ce qu'ils sont sous la tyrannie de la peur ou est-ce qu'ils sont... Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que cette loi est une infamie de plus sur le dos de ces gens qui certainement une infamie de plus ou de moins, ça doit pas trop signifier grand chose pour eux. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que aussi longtemps que ce système sera à la tête du Burundi, il faut s'attendre au pire et à toutes sortes de choses absurdes. Et il ne s'agit pas du départ de Nkurunziza. Nkurunziza va partir, il va s'assurer, lui et ses amis, du maintien du système.
Donc le souci, c'est le système.
C'est pas l'individu. L'individu, un chef d'État, notamment au Burundi, c'est quelqu'un d'extrêmement important, d'extrêmement puissant, certainement. Il peut changer des choses dans le bon sens comme dans le pire. Mais ce qui est fondamental à garder à l'esprit, c'est que ce groupe-là qui tyrannise le pays depuis 15 ans, il va tout faire pour rester en place. Et si quelqu'un se fait des illusions, comme quoi les élections vont changer quelque chose, on verra bien.
On va revenir bien sur cet aspect-là. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission qui est produite en synergie par les radios RPA et Nzamba Agathe Kakao et la télévision Renaissance. Nous parlons aujourd'hui de la nouvelle loi, ou plutôt du nouveau projet de loi sur les avantages qui seront accordés aux anciens chefs d'État élu dans le studio. Nous sommes avec Emmanuel Nyangourouté, ancien sénateur, et Innocent Mozi, journaliste et directeur de la radio-télévision Renaissance. Emmanuel, pensez-vous qu'en plus de ses propres discours de ne pas se faire représenter, de ne pas se représenter pour un autre mandat, et ce qui vient d'être annoncé comme avantages qui pourront lui être accordés à son départ, qu'il ne pourra vraiment pas, que c'est une preuve qu'il ne pourra plus se représenter, même si ce n'est pas aussi important comme vous venez de le dire.
Oui, ce sont des signes. Mais moi, j'attendrai jusqu'à la dernière minute, parce que avec l'homme, tout peut arriver.
Surtout qu'aujourd'hui, ils sont en pleine prière.
La loi est là.
Non, mais ils sont en pleine prière à Gitega et ils ont dit, on attend que Dieu nous dise...
Exactement. Ça peut être lui, que leur Dieu, parce que je ne sais pas quel Dieu il parle là. Donc, ça peut être son nom. Ou alors, on a lu beaucoup de choses dans la presse. On ne sait pas. On peut aujourd'hui nominer quelqu'un. Et le peuple se met dans la rue et après il dit c'est lui notre chef Nkurunziza qui doit revenir. On ne sait pas. Il faut attendre jusqu'à la dernière. Et puis, comme le disait si bien Mrozi, l'important ce n'est pas c'est le départ de tout le système qu'il incarne. Lui, il incarne un système que moi j'aime bien appeler génocidaire et mafieux. Si part, le système va rester et il va toujours tirer les ficelles de celui qui le remplacera.
Surtout qu'il sera érigé. Est-ce que vous considérez que tous ceux qui sont avec Nkurunziza sont mauvais?
La petite technique là, autour de lui, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu pour le deviner, mais de toute façon, s'ils appliquent la politique du Saint-Dédé telle qu'elle est appliqué maintenant, c'est mauvais.
Et donc, il n'y a pas d'espoir.
C'est la continuité. Et lui, en tant que guide du patriotisme et guide éternel, suprême, tout ça là, il va toujours donner des ordres à ce chef-là qui va rester, qui va le succéder. Donc là, c'est le système entier qu'il faut balayer. Ce n'est pas le son départ qui va changer, quoi que ce soit. Parce que il va partir sans partir, comme le disait si bien Mose.
Innocent, vous disiez que vous n'accordez pas beaucoup d'importance à la somme du milliard, ou encore à une villa cossue, ou encore à ce salaire de vice-président à vie, etc. etc. Mais dans le même temps, vous parlez de la pauvreté dans laquelle se trouvent pratiquement tous les Burundais. Est-ce que parler de milliards aux Burundais qui sont en train de mourir de faim aujourd'hui, comme vous le disiez, est-ce que ce n'est pas un scandale? Que doivent en penser les Burundais, eux?
Vous savez, les Burundais en pensent beaucoup de choses. C'est cet étalage de misère morale, politique, depuis 15 ans maintenant. Et c'est évident pour tous les Burundais. Tout le monde voit ce qui se passe. Mais pourquoi ça tient? Parce qu'ils ont fait comprendre à tout le pays, c'est lui qui lève la tête, il est mort. Un point entré, et ils l'ont montré. Ils ont tué les gens, ils ont laissé les cadavres pourrir sous le soleil dans les premiers jours pour terroriser les gens. Ils l'ont fait, ils l'ont refait. Après, ils se sont mis à prendre des cadavres, à les jeter à des endroits différents. Ils font disparaître les gens, etc. Le signal est constant et permanent, que vous soyez content ou pas, vous acceptez ou vous allez subir ce que d'autres ont déjà subi avant vous. Donc, ils tyrannisent le pays parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Vous ne pouvez pas faire tenir ce qui se passe au Burundi aujourd'hui sans que ce soit sous une tyrannie implacable. Donc, ils ont raison, c'est une tyrannie implacable. Quel que soit ce que vous pensez, c'est votre problème. Fermez-la, gardez ça au fond de vous. Surtout pas qu'on se demande, que personne ne se doute que vous pensez autre chose que ce qui se passe. Et vous pourrez sauver peut-être votre peau. Peut-être. Parce que parfois, il suffit d'un regard échangé où vous fixez quelqu'un qu'il ne fallait pas fixer, vous êtes, votre sort est réglé par après. Donc c'est, les gens, ils en passent, vous savez, c'est tellement évident. Comment est-ce qu'on peut faire des choses pareilles quand on sait qu'il y a des gamins qui sont dans des classes où ils apprennent assis par terre? Il n'y a même plus de bancs dans certaines classes. Quand on sait que 60% du pays est mal nourri.
Et pourtant, vous dites en même temps,
pratiquement 30% des enfants grandissent, la malnutrition est telle que 30% de nos enfants aujourd'hui seront pratiquement diminués dans leur croissance. Et vous êtes en train de dire qu'il y a les moyens, qu'il y a les moyens. Oui, il y a les moyens. Tout le pays n'est pas pauvre.
Et pourtant,
il y a des gens qui canalisent tout vers leur poche.
Et dans le même temps, vous dites, même si un Burundais trouvait que c'est scandaleux de parler d'un milliard pour un ancien chef d'État, qu'il ne montrerait pas qu'il est scandalisé.
Ben, il ne le dira pas à haute voix, en tout cas. Quand il est dans le pays.
Emmanuel, quelles pourraient être les conséquences de cette mesure?
Bon, les conséquences, il y en a beaucoup. Il y a d'abord le renforcement de l'approfondissement des divisions, n'est-ce pas? On a eu à le dire que...
Entre qui? Entre les anciens chefs d'État ou les composantes de la population?
Tout ça, tout c'est de corps. Parce qu'il y a les composants de la population qui soutiennent tel ou tel président, même sans le soutenir, on sympathise. Lorsque on voit qu'il est, discriminé, ils ne sont pas contents. Et ils regardent d'un mauvais œil l'initiateur du projet, qui est le président Nkurunziza, et les siens. Deuxième conséquence néfaste, c'est que la leçon peut prendre, malheureusement, chez les jeunes générations, que finalement, on rétribue qui? Quand on rétribue Nkurunziza, qui a mis à feu à sang le pays, tant politiquement que humainement, économiquement, socialement, on lui donne des sommes faramineuses à l'issue de ce mandat, s'il arrive à quitter, ça ne marche pas. On récompense quoi en fait? On récompense
le mal,
l'immoralité, le mal, le crime, n'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il est accusé de crimes contre l'humanité par tout le monde, la Commission internationale d'enquête, oui. C'est pas encore le tribunal, mais de toute façon, c'est qu'on sait, on le sait, tout le monde le sait. Et la troisième conséquence, le leadership national, il est très faiblard. Peut-être que le régime qui va suivre, ils vont prendre les mesures appropriées. Vous voyez ce Parlement-là, qui viole la Constitution et qui roule pour une seule personne, un despote.
Mais ils ne violent pas la Constitution puisqu'ils appliquent la nouvelle Constitution.
Même là, je dis leur nouvelle Constitution, au niveau de l'article 199, il est interdit de proposer des projets de loi qui imposent objet de l'État des charges énormes. Parce que, comme on le disait avant, les avantages et privilèges des anciens chefs de l'État qui étaient régis par la loi de 2004 étaient suffisants. Suffisants, vraiment. Il ne fallait pas en rajouter. Et il y a le ministre qui, normalement, devait s'opposer. Le simple fait de s'opposer à un projet d'amendement de la loi. Parce que l'allocation de fin de mandat de 500 000 proposé par le gouvernement, a été multiplié par deux. C'est le ministre, la ministre, qui devait s'opposer. Et il suffit qu'elle dise, non, je m'oppose, et la chose marche. Parce que c'est comme ça que c'est inscrit dans leur constitution.
Ça n'a pas été le cas.
Notre leadership national, le Parlement, le gouvernement, vous voyez comment ça travaille pour une seule équipe, pour un même groupe, pour un individu. Mais pas pour le pays. Et là, c'est vraiment décevant. C'est même indécent. C'est indécent qu'un chef de l'État, votre leader, que lui, il préside un conseil des ministres destiné à faire quoi? À se donner moult avantages inouïs et à les retirer à ses prédécesseurs. Ça, c'est vraiment de l'indécence. Et ça, c'est très mauvais pour le pays.
Ce sont les députés, en fait, qui proposent. C'est encore un projet de loi.
Non. C'est un projet de loi, mais c'est voté d'abord au Conseil des ministres. Mm-hmm. Le Conseil des ministres que le président Nkurunziza préside. Mm-hmm. Il préside, n'est-ce pas, pour se donner des avantages, nuire et retirer à d'autres. Mm-hmm. Parce que quelle leçon de modestie, quelle leçon d'exemple il donne aux autres.
Mm-hmm. Il n'y aura pas de conséquences. Il n'y aura pas de conséquences.
Pourquoi il n'y aura pas de conséquences?
La loi va être appliquée. Là, si elle est passée au Parlement, il va la ratifier, elle va être appliquée, comme toutes les autres lois insensées.
Et donc tout le monde va être content.
Attendez, c'est pas une question d'être content ou pas. La loi va être votée, donc elle a été votée au Parlement, elle va être ratifiée par le Président, elle va se mettre en application, il n'y a pas de conséquences, il aura l'argent qu'il veut, il va ségréguer le chef d'État qu'il veut ségréguer, ça va s'appliquer. Ça, il n'y a pas de doute. Mais simplement, durant le temps que durera son régime, comme beaucoup d'autres lois, comme beaucoup d'autres décisions contre nature qu'ils ont prises, qui sont en application.
Vous voulez parler de son système, de son régime?
Ce n'est pas que les gens approuvent, qu'ils soient contents ou pas. Non. On sait bien que l'écrasante majorité du pays ne peut pas comprendre ces choses-là. Ce n'est même pas une question de ceux qui sympathisent avec celui-ci. Non. C'est du bon sens évident, c'est des questions de diviser le pays ou pas, parce qu'encore une fois, vous savez, dans notre pays, le code, nous le connaissons, hein, quand ces gens du système parlent de Bouyoya, nous savons que ce n'est pas de Bouyoya qu'ils parlent, ils sont en train d'essayer de viser les Tutsis. Mm. Quand ils parlent de Ndadaye, ils sont en train de dire les Hutus. C'est aussi simple que ça, les codes, nous les connaissons, nous sommes Burundais. Donc quand ils sont en train de jouer ce jeu-là, ils essaient d'approfondir la cassure entre les Tutsis et les Hutus. C'est ça l'objectif qu'ils visent. Est-ce qu'ils vont réussir? Jusque-là, ils ont échoué, lamentablement, parce qu'encore une fois, la vie réelle montre que cette idéologie-là n'a rien à voir avec la vie.
Sauf que dans leur discours, ils disent le contraire en disant qu'ils sont en train de chercher à rassembler les Burundais.
Oui, tout en faisant le contraire de ce discours-là. Mmh. Ils parlent de rassembler les Burundais tout en faisant exactement le contraire, et personne n'est dupe. Mais encore une fois, ce qui va se passer, c'est que la loi va passer, elle va être adoptée, elle va être appliquée, il n'y a pas de conséquences. Mmh. Elle sera annulée, comme beaucoup d'autres lois, quand ce système-là aura été éliminé du pouvoir.
Mmh. C'est dommage que le temps soit très court sur cette question, parce que je sens qu'on avait encore beaucoup de choses à dire, notamment sur le fait que ça peut peut-être être un avantage, hein, si un chef d'État sait qu'il va bénéficier de tant d'avantages, qu'il va peut-être travailler pour la population au lieu de se prêter à la maladie.
Un chef d'État, un ministre, un parlementaire, un directeur général, tout cadre de l'État doit savoir et ne peut être dans ses fonctions que pour contribuer à résoudre les problèmes de la société.
Et non pas viser des biens.
Il doit vivre, il doit être à l'abri du besoin, etc. C'est légitime, c'est logique. Mais fondamentalement, on ne prend pas un pays pour l'écraser, pour le manger, pour le détruire. Ça n'a pas de sens comme ils sont en train de le faire. Mmh. La légitimité ne peut être autre que celle d'être en position de direction de ceci ou de cela pour contribuer à résoudre les problèmes de la communauté. C'est la seule chose qui donne légitimité à celui-ci ou celui-là. Toutes les autres légitimités qu'ils essaient de brandir, ethnique, élection, machin, ce ne sont que des mots.
Merci beaucoup, Innocent Mohosi. C'est vos propos que nous clôturons cette édition du Club de la Presse. Je vous remercie tout autant qu'à notre invité, notre deuxième invité, Emmanuel Nguengouloutse. Merci à tous les deux.
Merci.
Et merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.
La Presse, une émission produite en synergie par 3 médias, la radio publique africaine, la radio Indamba et la radio télévision Renaissance.
Le Club de la Presse offre aux professionnels des médias et aux invités un espace de débat et d'analyse des nouvelles nationales et régionales.
Cette émission est aussi un cadre d'expression à l'autocritique et à une analyse sans complaisance du travail des journalistes burundais.
Retrouvez le Club de la Presse tous les vendredis sur le www.rpa.bi ou sur le www.nzamba.org et sur la page YouTube de la Télévision Renaissance.